Chers frères et sœurs, bonsoir. Et que le Seigneur soit béni de nous accorder la liberté, la santé, de pouvoir nous rassembler dans un lieu de culte. Vous êtes d'accord? C'est une grâce de Dieu. Nous allons faire ce soir plusieurs lectures pour poursuivre ce sujet qui devrait être le sujet le plus peut-être débattu dans toutes les églises du monde que j'ai abordé avec cette question. Iras-tu au ciel ou en enfer? Ce soir, je pourrais mettre un sous-titre à ce sujet, c'est une parole que Dieu dit par la bouche du prophète Ézéchiel, « Avertis-les de ma part ». Nous allons faire encore quelques lectures, ça servira, on va faire en même temps de la doctrine et en même temps de l'exhortation et de l'évangélisation, parce que tout ça, ça se recoupe bien. Nous allons faire d'abord la lecture d'un homme dans Daniel. Dans le livre de Daniel, c'est un roi, Belshazzar, qui n'a pas pris au sérieux les choses de Dieu. C'est hélas ce qui se passe dans la vie de millions de gens dans notre pays, des hommes qui s'amusent avec les choses de Dieu. Nous en avons un exemple bien relaté dans Daniel au chapitre 5. Un homme qui savait ces choses et qui n'en a pas tenu compte. Donc c'est bien de commencer avec cet exemple négatif, malheureusement. Daniel chapitre 5. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple et de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement de mon royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi, le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur, et ses grands furent consternés. Vous avez vu quand Dieu intervient dans une vie, comment on peut passer de l'euphorie à la peur? Alors bien sûr, on va lire à partir du verset 22. On a fait la mère du roi fait venir le roi Daniel. Il ne savait même pas qu'il avait le roi Daniel à portée de main dans son royaume. Et le roi et Daniel va commencer à lui expliquer. « Et toi, Belshazzar, verset 22, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. » Voyez qu'il savait tout ça. « Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servi pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes, tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix? C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui met au cou un collier d'or et l'on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette nuit même, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Amen. Dans le livre des Hébreux, chapitre 12, il y a une exhortation qui vient comme ça en plein milieu de la doctrine et de l'exhortation. Hébreux chapitre 12, verset 25, nous lirons jusqu'au verset 29, nous reviendrons sur ces lectures au cours de la méditation. C'est une exhortation qui est adressée à tous les hommes. À tous les hommes de la terre, Hébreux chapitre 12, verset 25. Vous verrez qu'à la fin de cette étude, je ne sais pas combien on en fera, 3 ou 4 ou 5, vous verrez le nombre de textes qui nous parlent de ce sujet. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Hébreux 12, 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Je relis. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux ? Lui, dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, c'est une promesse, attendez-vous, regardez bien, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indique le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. Je l'expliquerai tout à l'heure. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Parce que dans le début du chapitre, il nous est dit que Dieu est amour. Mais voyez, là il termine en disant, mais Dieu est amour, c'est un fait. Mais sachez aussi que Dieu est un feu dévorant. On va faire une autre lecture, s'il vous plaît, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, c'est le Seigneur Jésus qui parle et qui nous parle de son salut et de la vie éternelle, et de la mort éternelle. Jean, chapitre 3, c'est le fameux chapitre où Jésus parle à Nicodème sur l'importance de naître de nouveau, un texte où Jésus dit qu'il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. C'est ce fameux texte où il est parlé de que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que nous ne périssions pas. Et ce chapitre termine avec cette pensée, Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà l'évangile avec ses deux aspects, ses deux côtés. Le côté de la grâce qui sauve, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est un sujet sérieux que nous abordons, un sujet pour lequel il faut prier, un sujet qui doit nous faire prendre conscience de l'importance d'évangéliser tout ce que nous pouvons côtoyer. Parler des méchants, parler du séjour des morts, vous allez voir quelques versets encore, on va en lire un autre pour voir combien Dieu y revient souvent. Dans le psaume 9, je pense que c'est bien, d'ailleurs vous pouvez prendre des notes, surligner ces passages pour aider à évangéliser dans le psaume 9, verset 18, un verset que j'ai cherché tout à l'heure, parce qu'avec l'aide de ma concordance, je prends des textes sur les méchants ou sur l'enfer, le séjour des morts, et je vous assure qu'il y en a. Si vous avez une concordance avec Internet, vous regarderez. Psaume 9, verset 18. C'est pour vous dire combien les hommes choisissent le mal. Il faut croire quand même, il faut comprendre que les hommes font continuellement un choix, comme vous ce soir, vous avez fait le choix de venir dans sa maison, vous auriez pu faire autre chose. Psaume 9, verset 18. Les méchants se tourne vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Voyez, les méchants se tournent vers le séjour des morts. Et il y a comme ça des versets, peut-être que vous n'y aviez jamais fait attention à ce verset. Mais dans le cadre de cette étude, il prend une autre dimension. Voyez, et il faut comprendre qu'en fin de compte, on fait des choix. Et les méchants choisissent le séjour des morts. On verra au fur et à mesure de cette étude, si je comprends comment je vais la présenter, que Dieu sait ce qu'il fait vraiment, et que tout ce que Dieu a fait est sage. Tout ce que Dieu dit est intelligent. Nous, des fois, on conteste avec Dieu, alors que la Bible nous demande surtout de ne pas contester avec Dieu, surtout de ne pas contester avec le Créateur, que ça serait comme un vase qui se dispute avec le potier, ça ne tient pas debout. Tout ce que Dieu dit est intelligent. Est-ce que vous le croyez ? Dieu n'a jamais dit quelque chose, et puis après l'avoir dit, s'est rétracté en disant, Oh, est-ce que j'aurais dû le leur dire? Rien que le fait de présenter la chose de cette manière, ça couvre, c'est plein de stupidité. Tout ce que Dieu a dit est rempli de sagesse. Tout. Faites confiance au Seigneur. Croyez-moi. La Bible nous enseigne qu'à cause du péché d'Adam, toute la race humaine a été plongée sous la malédiction du péché. Ce n'est pas Dieu qui a implanté l'homme ou plongé l'homme dans la malédiction. Il faudra un jour que je fasse une étude sur les dispensations. Peut-être d'ailleurs après l'étude sur le ciel et l'enfer, il faudrait que je fasse une étude sur les 7 dispensations que l'humanité aura connues pour comprendre que dans chacune de ces dispensations, Dieu met l'homme toujours devant un choix. Même pendant le millénium, quand le diable sera jeté dans les temps ardents de feu, les hommes auront malgré tout le choix entre le bien et le mal. Ce qui prouvera que même s'il n'y avait pas le diable, les hommes auraient pu choisir malgré tout le mal. Parce que des fois on met tout sur le dos du diable comme si c'était que le diable. Mais je peux vous dire que même quand il n'y aura plus le diable, l'homme pourra choisir malgré tout le mal. Enfin, ça sera une autre étude. Donc l'homme a choisi la parole de Satan, a préféré la parole de Satan à la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi dans le jardin d'Éden? Et tant qu'un homme, dans la dispensation de la grâce, celle où nous sommes, la sixième dispensation, tant qu'un homme n'accepte pas Jésus-Christ comme son sauveur personnel, pas croire dans le sens de croire en Dieu, d'aller à l'église de temps en temps, de croire que Dieu existe, non, accepter Jésus comme son sauveur personnel, ça enclenche une conversion qui fait que Jésus devient notre Seigneur et on s'engage avec lui dans les eaux du baptême et nous obtenons le salut. Mais tant qu'un homme n'accepte pas Jésus-Christ comme sauveur par une repentance et par une conversion, il reste, on l'a lu dans Jean, sous la colère de Dieu. Et il faut bien comprendre, parce que ce sujet est délicat et je veux bien le présenter, il faut bien comprendre qu'à la croix, on chante de la croix, la grâce coule, il faut bien parler de la mort de Jésus sur le bois de la croix. Jésus sur la croix n'a pas porté que notre péché, il a aussi subi le châtiment de notre péché. Peut-être que pour plusieurs ça ne veut pas dire grand-chose, mais il est aussi écrit qu'il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Les 3 heures de ténèbres sur la terre lorsque Jésus a été crucifié sont les 3 heures où il a été séparé de Dieu et il a porté le péché, il a pris le péché, il a annulé notre péché. Regardez dans le psaume 116 ces textes qui nous parlent de la souffrance de Jésus. Vous savez qu'il y a beaucoup de psaumes qu'on appelle des psaumes prophétiques. Dans le psaume 116, au verset 3, il y a un verset, je n'avais que l'embarras du choix. Psaume 116, verset 3, qui fait allusion à la souffrance terrible de Jésus, une souffrance indescriptible certainement, c'est ce que signifie le mot longanimité, il n'y a pas de mots pour comprendre la souffrance de Jésus sur la croix. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Et dans la Bible, il y a souvent des versets qui nous parlent de l'immense douleur que Jésus a dû subir sur le bois de la croix pour nous pardonner. Souvent, je pense à Dieu quand il a créé le monde. Quand il a créé le monde, c'est compliqué le monde quand même. Avec tout ce qui existe, tout ce que Dieu a fait. C'est prodigieux ce que Dieu a fait, non? Les mathématiques dans l'espace, rien que ça, c'est un truc hallucinant. Hein, on peut prévoir une éclipse 200 ans à l'avance, au microseconde près. C'est impressionnant, la création. Quand Dieu a créé l'homme, ça a dû être un plaisir extraordinaire pour Dieu, non? Est-ce que c'était bien pour Dieu de créer l'homme? Oui, c'est dit que tout, il vit que cela était très bon. Et souvent, je pense à notre Dieu qui a créé tout, à la perfection. Mais quand je vois que ça n'a pas dû être compliqué pour Dieu, parce que quand même, bon, il est tellement grand. Mais quand je vois, rien que dans la Bible, de ma compréhension humaine, ce que le Seigneur a été obligé de faire pour pouvoir faire en sorte que l'homme soit recréé, c'est-à-dire qu'il puisse naître de nouveau. Vous ne croyez pas qu'il y a une grande différence? Est-ce que vous me suivez? J'ai été assez clair? Vous me suivez? Pour créer l'homme, ça n'a pas été un problème. Mais pour que l'homme puisse renaître de nouveau, qu'est-ce que Dieu n'a-t-il pas été obligé de souffrir? Et lorsque nous abordons le problème du ciel et de l'enfer, nous terminerons, je pense, avec une prédication que sur le ciel.
Et vous verrez que ce sera quand même extraordinaire. Mais je crois qu'il faut que l'Église comprenne vraiment ce qu'est l'enfer et ses conséquences. Ça a été très douloureux pour Jésus de souffrir au calvaire. Rien que la moquerie, rien que l'humiliation que Jésus a dû subir pour nous sauver de l'enfer est quelque chose qu'il faut tout le temps considérer, surtout quand on prend le pain et le vin. Bien sûr, ça serait mieux tout le temps, mais au moins que quand on prenne le pain et le vin. On a une immense considération de la souffrance de Jésus-Christ au calvaire. Il a pris notre condamnation. Regardez avec moi dans Colossiens chapitre 2. Je sais par les questions que l'on me pose qu'il y a des textes que l'on ne comprend pas bien, des textes que l'on évite même. Il y a des textes qui, bien sûr, sont difficiles à comprendre. Mais regardez comment l'apôtre Paul aux Colossiens parle de l'acte de la croix. Colossiens chapitre 2, verset 14. Je sais que c'est des textes qui sont parfois difficiles, mais là on comprend. Dans le cadre d'une étude comme ça, c'est facile à comprendre. Jésus n'a pas que porté notre péché, il a effacé notre châtiment. Colossiens chapitre 2, verset 14. « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous étions, vous savez, sous la condamnation. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. » Mes frères et sœurs, est-ce que nous comprenons? Il n'y a pas que le pardon des péchés. Il y a tout un acte de justice au niveau justice divine. Il y a un acte qui a été effacé. Quand un homme se convertit, quand un homme demande pardon, la condamnation, elle est effacée. Ça vous réjouit pas? Et d'un double coup, votre nom est inscrit dans le livre de vie. Notre acte est effacé. Quelle folie, comme pour Belshazzar, de refuser la main tendue du Seigneur. Ce soir, y a-t-il parmi nous quelqu'un qui n'a pas encore tendu sa main à Dieu? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui prend les choses de Dieu à la légère, comme Belshazzar, qui s'autorisait à blaguer? C'est l'image des gens qui s'amusent avec les choses de Dieu. Les choses du temple, il les a utilisées pour picoler, pour boire, excusez-moi l'expression. Il s'était autorisé, il était roi, alors lui qui avait pouvoir de vie sur les gens. Vous savez, les rois, certains rois sont vraiment des psychopathes. Pourquoi? Parce qu'ils ont pouvoir sur la vie des gens. Et ils en arrivent à croire qu'ils sont immortels. Et cette histoire, elle nous montre que certaines personnes pensent pareil, qu'il y a des gens qui vivent comme s'ils avaient encore 500 ans à vivre. Et ils s'autorisent à rire avec les choses de Dieu. Alors on rigole avec les choses de Dieu. En plus, il y en a qui peuvent être justement utilisés en dérision et tournés en dérision. Ne riez pas avec les choses de Dieu. Ne riez pas. Vous avez vu comment ça finit pour Belshazzar? C'est vraiment pas marrant. Refusez cette main de Dieu, toujours tendue. Ce soir, les mains du Sauveur, elles sont tendues pour que vous puissiez vous y jeter dans ses bras et obtenir son pardon. Refuser cette main bénie, c'est choisir délibérément la compagnie des démons, parce que le diable il sera jeté dans les temps de feu. C'est écrit ou c'est pas écrit? Est-ce que vous vous rendez compte? Éternellement vivre en compagnie des démons, des meurtriers, des débauchés, de tous ces sorciers, de tout cet occultisme. Quand je vois des fois, ce que je veux dire, c'est peut-être pas fait, mais c'est vrai. Quand je vois les gens BCBG qui disent « Oh non, moi, vous savez, la religion, c'est pas pour moi me retrouver dans une église avec des chrétiens, il y a toutes sortes de gens. » Ces gens-là, BCBG, ils vont se retrouver avec toutes sortes de démons. Ils n'auront pas voulu la compagnie des chrétiens parce qu'il y avait tout niveau. Il y a des gens dans une église, ils ne veulent pas y entrer parce qu'il y a toutes les conditions humaines. Il y a tous les cas de figure. Quand je pense à ces gens, quelle folie! Quelle folie! Au nom d'un certain standing, refuser la main du Seigneur. Alors là, je peux vous dire que le BCBG, ils vont l'oublier, croyez-moi. Quel contraste avec ceux qui se sont approchés. Regardez avec moi dans Romains, Hébreux 12, on y était tout à l'heure, mais on y revient. Dans Hébreux 12, quel contraste entre ces gens qui vont être plongés dans l'éternité, dans l'enfer, dans les temps de feu avec le diable et ses démons. Quel contraste avec ceux qui, regardez dans Hébreux 12, je vous ai dit, on fera une prédication, je pense, que sur le ciel. Parce que quand même, il faut en parler. Quelle joie pour nous de prendre que des textes sur le ciel. On le fera, ça sera la, comme on appelle, la cerise sur le gâteau. Hébreux 12, verset 22. Mais vous, voilà, il parle des chrétiens. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous les esprits, des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Amen. Et quand on verra dans la dernière étude, certainement, tous les textes qui nous parlent du ciel, de la félicité, du bonheur, etc. Quel contraste! Quand vous lisez ce matin, tout à l'heure, je lisais, j'avais fini l'étude, et je lisais la description de la Jérusalem céleste. Cette ville de 2000 km², c'est quelque chose d'hallucinant. Ça sera la capitale des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Voilà de quoi les gens se priveront pour l'éternité, pour ne pas avoir pris au sérieux les choses de Dieu. C'est pour ça que j'ai lu ce verset. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Nous ne pouvons pas calculer la grâce que Dieu nous accorde de pouvoir nous parler. Je sais, on est tellement habitué parce qu'on a des Bibles, parce qu'on a des églises, parce qu'il y a des pasteurs. Mais imaginez-vous, les endroits du monde où il n'y a pas d'église, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de Bible, dans la langue des autochtones. Et nous, on est habitués. C'est pour ça qu'on devrait être rempli de reconnaissance. Gardez-vous, que vous soyez chrétien ou pas, et surtout si vous ne l'êtes pas, appliquez-vous, apprenez à écouter Dieu quand il parle dans sa parole. Et puisque nous sommes dans Hébreu, vous avez vu, une fois encore, verset 27, vous savez quand Dieu dit, j'ébranlerai la terre, j'ébranlerai le ciel. Une fois encore, j'ébranlerai, signifie que tout ce qui a trait à notre création sera ébranlé. On le voit au travers d'un tremblement de terre, parce que on peut bien utiliser une image matérielle, géographique, sismique, pour comprendre que Dieu peut ébranlera tout. Il dit, j'ébranlerai, il le dit, j'ébranlerai la terre, une fois encore. Pourquoi ? Afin que les choses inébranlables subsistent. Les choses inébranlables, ce sont les choses spirituelles. Ce qui n'est pas spirituel ne subsistera pas. Un homme qui n'a pas fait la paix avec Jésus-Christ sera ébranlé. Un homme qui accepte Jésus-Christ, qui a accepté le Christ dans sa vie comme sauveur et comme Seigneur, qui passe par une vraie conversion, des choses qu'il faut absolument que je rappelle. Vous savez, j'ai discuté avec trois personnes dans l'église, dernièrement, trois personnes, j'ai été obligé de leur dire qu'elles ne sont pas converties. Vous croyez que ça me plaît ? Mais il faut que je le fasse. Des gens baptisés, qui croient qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont pris le baptême. Aucun fruit. Un comportement identique à ceux des païens. Ne subsistera que ce qui est spirituel. C'est ça qui est inébranlable. D'ailleurs, on le dit au verset 28. Au verset 28, c'est bien expliqué. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable. Le Seigneur Jésus-Christ, quand vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes dans un royaume inébranlable. Il n'y a personne qui dit amen. Est-ce que ce soir vous pouvez dire oui, je suis caché en Christ, je suis dans un royaume inébranlable. Mon corps est peut-être sur la terre de Toulouse, mais en vérité, ma vie spirituelle, elle est dans un royaume inébranlable. C'est pour ça qu'il est dit, vous avez vu la suite, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Mes frères et sœurs, je ne veux pas revenir au service des cultes. Mais il me semble que nous devrions vraiment tout faire, lorsque nous avons un culte, de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Je ne veux pas revenir sur mes remarques, peut-être, qui sont pénibles. Mais quand je vois les gens qui... En plus, ça m'énerve. Les gens qui mâchent du chewing-gum pendant que je prêche. J'imaginais, s'il y avait Jésus, si les gens ils seraient en train de mâcher du chewing-gum. Vous croyez, vous seriez avec Jésus-Christ, vous mâcheriez du chewing-gum ? Je ne sais pas pourquoi vous souriez. Hein? Est-ce que vous pensez que Dieu, notre Seigneur Jésus, mérite qu'on lui apporte un culte avec beaucoup de respect? Écoutez, moi, vous savez, là, je m'interroge, c'est une parenthèse, c'est une réflexion. Là, ce n'est pas le pasteur qui vous parle, c'est plutôt le chrétien qui vous parle. Je ne comprends pas. Des fois, je prêche à 11h, il y a des gens qui rentrent à 11h. En claquant la porte, il faut qu'on offre au Seigneur un culte, qu'il soit agréable. Mes frères et sœurs, on veut la bénédiction. On veut que des âmes soient sauvées. On veut que nos enfants soient sauvés. Vous voulez que vos enfants soient sauvés? Il faut qu'on ait des lieux de culte où vraiment nous respectons sa parole. Mes frères et sœurs, soyons sérieux. Jésus a traité les pharisiens de son époque de drôles de façon. Vous avez vu, on va lire deux textes, Matthieu 23. Vous avez vu combien Jésus était l'ami des pécheurs et qu'en même temps, comme il a été sévère envers les religieux, les pasteurs de l'époque, les pharisiens. Matthieu 23, regardez. Moi, j'ai été très étonné la première fois où j'ai lu l'évangile, comment Dieu parlait aux pasteurs de l'époque. Je sais pas ce que vous, peut-être parce que je soupçonnais que j'allais devenir un serviteur de Dieu, ça fait que ça me travaillait cette affaire. Matthieu 23, 13. Regardez. Malheur à vous. Vous savez, malheur à vous, c'est exactement un peu comme le mot maudit que j'utilisais dimanche. Malheur à vous. Cette fois, il le dit dans ce même chapitre. Scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez, regardez bien. Quel malheur, oui. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, alors ça c'était pas malin, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Et le Seigneur parle à ses pasteurs de l'époque, il leur dit malheur. Vous empêchez les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Et pourtant, ils prêchaient la loi, en veux-tu, en voilà. Mais ils ne prêchaient pas la repentance et la conversion. Plus loin, dans Luc au chapitre 11, c'est pareil, c'est plus clair en plus. C'est encore plus clair, parce que là, il parle de la clé, de la connaissance, de la science. Lorsque un homme reçoit un ministère pastoral ou un ministère d'évangéliste, il a comme une clé pour ouvrir justement les portes. Luc 11, verset 52, là, c'est vraiment, c'est terrible ça. C'est pareil, mais dit de manière différente. « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même. » Et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Est-ce que vous vous rendez compte la responsabilité des religieux qui savent très bien ce que la Bible enseigne et que pour des raisons très intéressées, ne prêchent pas la repentance et la conversion? Malheur à vous. C'était des gens qui connaissaient très bien, c'était des docteurs de la loi. Si vous lisez ce qu'il fallait être, ce qu'il fallait faire, la connaissance qu'il fallait pour être docteur de la loi, je vous assure, quand vous cherchez dans les bouquins comment un juif pouvait, tout ce qu'il fallait qu'il fasse pour devenir docteur de la loi, croyez-moi, il fallait qu'il connaisse la parole de Dieu. Eh bien, ces gens-là ne voulaient pas prêcher la repentance, ne voulaient pas prêcher la conversion. Malheur à vous. Mes frères et sœurs, dans une église, il faudra tout le temps prêcher la repentance et la sainteté, la conversion à Dieu, l'obéissance à Dieu. Il faut prêcher toute la parole de Dieu. C'est Paul qui dit à Timothée, toute écriture, 2 Timothée 3,16, pour ceux qui prennent des notes, toute écriture, toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mes frères et sœurs, je m'adresse aux chrétiens. Nous prions pour un réveil? Est-ce que vraiment nous prions pour un réveil, c'est-à-dire une moisson d'âmes, que les Toulousains se convertissent, que beaucoup de Toulousains se convertissent? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alors, comment Dieu, je vous pose une question, je nous la pose, comment Dieu pourrait-il envoyer une effusion de son esprit si nous ne dénonçons pas le caractère horrible du péché? Comment Dieu pourra-t-il approuver sa parole, approuver ce qui se passe dans une église, si nous ne parlons pas des conséquences du péché?
Comment Dieu pourra-t-il nous bénir si nous ne revenons pas à la prédication de la sainteté de Dieu? Dieu est saint. Et sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Sans la sanctification, les Toulousains ne verront pas Dieu intervenir. Nos enfants ne verront pas Dieu. Comment Dieu pourra-t-il nous bénir si nous n'expliquons pas la réalité incontournable de l'enfer selon la Bible? Est-ce que la Bible parle de l'enfer? Écoutez, si on ne peut pas le faire, ça serait incohérent. Ce ne serait peut-être pas intelligent de prendre que des textes sur l'enfer et de les lire. Mais on en attraperait une indigestion. Ça ne serait pas bien de le faire comme ça. Chaque réveil, puisqu'on prie pour le réveil, chaque réveil a été marqué par l'annonce de l'amour de Dieu envers les pécheurs, c'est vrai. Mais en même temps, chaque réveil, moi j'ai lu l'histoire du réveil, j'en ai lu l'histoire du réveil, tous les prédicateurs parlaient de l'amour de Dieu et en même temps de la colère de Dieu pour les pécheurs impénitents. On ne peut pas avoir l'approbation de Dieu si on ne présente qu'une partie de la vérité. Là je m'adresse aux anciens, aux responsables et même aux pasteurs et aux jeunes pasteurs qui m'écouteront. Dieu ne peut pas approuver si nous ne présentons qu'une partie de la vérité. Allez dans des librairies chrétiennes, allez voir les livres sur le réveil. Moi, je l'ai fait. Vous allez dans une librairie et vous allez voir plein de méthodes, de trucs, de clés nouvelles pour favoriser le réveil. Tout est basé sur des méthodes qui se passent dans tel pays, dans tel continent. Le travail social pour favoriser un réveil. Je dis pas qu'il faut pas faire du social, etc. Mais il faut faire une friperie. Si on vend des fringues, eh bien peut-être que des gens viendront et ils viendront à l'église. C'est des trucs qu'on entend, ça. Des jeux de société. Il y a une église, on a arrêté la réunion de prière. On joue aux dames, au Scrabble. On joue des jeux de société. Depuis qu'on fait des jeux de société, il y a beaucoup de monde à la réunion. C'est le réveil. Et puis on fait des progrès aux échecs. Alors on rit, parce que... Mais c'est ce qui se passe. Tout ça pour favoriser le réveil. Le réveil, il viendra avec la prédication de la croix. Le réveil vient quand on parle de la sainteté de Dieu, quand on parle de la haine du péché. Le réveil, il viendra dans une ville quand on parlera de l'enfer pour les impénitents et du paradis pour les convertis. J'espère que vous êtes d'accord. Le réveil viendra comme ça, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de ferveur, avec pas du tout d'esprit de jugement, avec de la compassion pour les gens, quel que soit l'état dans lequel ils se trouvent. Moi je crois, puisqu'on l'a lu, toute écriture est inspirée de Dieu, que tout ce qui est écrit dans la Bible est important. Et qu'il ne faut pas faire comme certains qui disent « Oh mais ça c'est écrit qu'une fois, donc c'est peut-être pas important. » Ou ça c'est « Non, c'était pour les chrétiens de la Odyssée, c'est pas pour nous. » Si c'est dans la Bible, c'est pour tous les chrétiens de la terre, à tous les siècles. Je crois tout ce qui est dit sur l'amour de Dieu. Moi, je crois que Dieu est amour, parce que la Bible dit que Dieu est amour. Je crois que Dieu est miséricordieux. Je crois que Dieu est la colère. Je crois que la patience de Dieu est notre salut. Je crois qu'il pardonne tous les péchés. Je crois tout ça. Mais je crois aussi qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, et que si les hommes n'ont pas fait la paix avec Dieu, ils vont en enfer. Je le crois parce que la Bible le dit. Je crois que Dieu est juste dans toutes ses œuvres, et comme c'est écrit dans Exode 34, il ne tiendra pas le coupable pour innocent. C'est écrit. Oui, il faut croire à toute la parole de Dieu, et on n'a pas le droit de présenter qu'un aspect de la vérité. C'est pour ça qu'il faut avertir les gens. C'est pour ça qu'il faut offrir des évangiles. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, il faut le redire. Quand vous offrez un évangile, la personne, elle peut se convertir. Parfois, on me dit, mais moi, je ne sais pas témoigner, j'arrive pas à rendre témoignage. Mais ce n'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Donnez un évangile. Donnez-le, offrez-le, achetez-le. Je le répéterai toujours, jusqu'à la fin. Procurez-vous-en, ne partez pas sans avoir un évangile pour pouvoir donner demain. Parce qu'en donnant un évangile, la personne, elle n'aura plus jamais d'excuses. Si elle va en enfer, ça sera sa faute. Alors ne vous tracassez pas trop pour le témoignage. Donnez un évangile. Donnez-le. Écoutez, lisez ça. Je ne sais pas comment vous le dire. Je suis chrétien, mais je n'ai pas la langue facile. Mais lisez cet évangile. La personne ne peut passer des ténèbres à la lumière. Les chrétiens ils sont sérieux avec la parole de Dieu. Dans l'Église, les frères et les sœurs, dans l'Église, les véritables croyants, ils sont éclairés sur ces vérités. Vous vous rendez compte qu'aux États-Unis, dans les assemblées de Dieu, il y a 60% des chrétiens qui ne croient plus à l'enfer. Comment voulez-vous que la moralité augmente ? Si on ne croit plus à l'enfer, mais tout est permis. On fait ce qu'on veut. Mais quand on croit à l'enfer, qu'on le veuille ou non, ça nous fait tenir à carreau. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous croyez pas qu'il y a beaucoup de gens qui, avant de commettre certains crimes, avant de commettre certains vols, etc., il faut, rien que déjà sur la terre au niveau de la prison, s'ils en avaient peur, ils feraient attention. À combien plus forte raison pour l'enfer? Mais les chrétiens, mes frères et sœurs, là je m'adresse à vous avec beaucoup de cœur. Les chrétiens, nous qui sommes au courant de ces choses, nous qui sommes éclairés sur la vérité, est-ce que nous ne devrions pas être stimulés, encouragés à prier pour que il y ait de plus en plus le fardeau des âmes dans cette ville de Toulouse? Avez-vous prié aujourd'hui? Alors si ce n'est pas aujourd'hui, c'était hier. Mais prierez-vous demain pour que des âmes soient sauvées? Est-ce que vous avez le fardeau des âmes ou est-ce que c'est votre dernier souci? Est-ce que quand la voiture est rayée, oh que c'est pas grave, oh marié la bagnole, oh quel problème. Mais il y a des gens, je prends cet exemple, mais bien sûr que ce n'est pas marrant. Mais il y a des gens, ils sont beaucoup plus contrariés parce qu'il y a une fuite à la gouttière ou une rayure sur la voiture que parce que des âmes vont en enfer. Et c'est vrai qu'il faut bien s'occuper de sa maison, bien sûr. Mais mes frères et sœurs, j'espère que le fardeau des âmes est vraiment une priorité dans votre vie. Plusieurs de nos proches, de nos amis, de nos parents sont sur la voie de la perdition. Oui ou non? Hein? Et le fait, à nouveau, peut-être une réunion comme dimanche, une réunion comme ce soir, d'en prendre conscience, devrait nous dire, mais Seigneur, donne-moi le fardeau, je veux tout à nouveau implorer le Seigneur pour le salut de ses âmes, de ses proches, mais même de nos ennemis. Est-ce que ce serait bien que nos ennemis se convertissent? Eh bien, bien sûr. Pourquoi on annule les réunions de prière? Écoutez, moi je suis pasteur, je suis au courant. J'apprends, tiens, dans cette ville, il n'y a plus de réunions de prière. Dans cette église, il n'y a plus de réunions de prière. Dans cette assemblée, il n'y a plus de réunions d'évangélisation. Pourquoi il n'y a plus de réunions de prière? Pourquoi il n'y a plus de réunions d'évangélisation? Et j'entends les frères, les collègues qui me disent, mais personne ne vient à la réunion de prière. Alors on l'a annulée. Quel drame, frères et sœurs. Moi je vous dis que le jour où le fardeau des âmes, où on aura conscience de l'enfer, les chrétiens reviendront prier. C'est vrai ou c'est pas vrai? Les chrétiens reviendront, ils courront à la réunion de prière. Seigneur, sauve mes amis, sauve mes proches, tu vois mes voisins. Seigneur, fais quelque chose. On ne peut pas supprimer les réunions de prière. On ne peut pas supprimer les réunions de prière. Et si les chrétiens ne prient pas, c'est qu'ils sont aveuglés. Que les païens soient aveuglés, c'est tout à fait normal. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens au chapitre 4. On voit bien que les païens sont aveuglés. Ils sont profondément aveuglés. Donc ils ne peuvent pas comprendre. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Mais ce qu'on va lire, c'est normal. Mais le reste que je vais ajouter, c'est beaucoup plus grave. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, vous y êtes? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. D'accord? Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire, les incrédules, les inconvertis, les athées, les païens, ils ne peuvent pas voir briller la splendeur de l'évangile. C'est pour ça qu'il faut prier. Mais que les païens ne voit pas briller la splendeur de l'évangile, c'est, excusez-moi l'expression, c'est de bonne guerre. Mais que les chrétiens soient aveuglés et ne voient pas briller ces choses, ne voient pas l'importance du combat spirituel. D'ailleurs, dans l'église de Laodicée, j'y faisais allusion tout à l'heure, Jésus dit à cette église, mais tu ne sais pas que tu es aveugle. Pierre dit aux chrétiens, mais si ces choses ne sont pas en vous, c'est-à-dire des vertus spirituelles qui montrent qu'il y a une communion avec Dieu, si ces choses ne sont pas en vous, il dit, mais vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle. Et un chrétien qui n'a plus le fardeau des âmes, prenez-le bien, prenez-le bien. Et considérez ça comme une réponse de Dieu. Si vous n'avez pas le fardeau des âmes, ressaisissez-vous. Et dites, Seigneur, redonne-moi le fardeau des âmes. J'ai honte, Seigneur. Ça fait des mois que je prie plus pour les âmes perdues. Ne vous traumatisez pas, ne laissez pas le diable vous accabler. Laissez le Seigneur vous intervenir et vous convaincre. Eh bien, je vais retrouver le chemin de la prière. Est-ce que ce n'est pas l'heure de la prière pour notre génération et pour notre pays? Mes frères et sœurs, que les païens soient aveuglés, c'est normal. Vous parlez à quelqu'un, il se moque des choses de Dieu. Tu me saoules avec tes trucs, tu parles. C'est normal. Ça, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est logique. Mais que les chrétiens n'aient pas le fardeau des âmes, c'est un drame. On peut faire des réunions d'évangélisation pour tranquilliser sa conscience et dire, tiens, on fait 3-4 missions d'évangélisation par an. On peut les faire. Mais mes frères et sœurs, il faut que dans notre cœur, ça bouillonne. Il faut que dans notre cœur, ça brûle. Il faut que dans notre cœur, on se dise, je ne le lâcherai pas. Je ne les lâcherai pas tant qu'ils seront vivants. Je prierai pour eux. Tant qu'ils seront vivants, je veux voir Dieu sauver des âmes. Mes frères et sœurs, nous allons bientôt quitter cette terre. Vous le savez? On va quitter. Est-ce que vous ne voulez pas que votre famille, elle entre dans la joie, dans la félicité, dans la gloire éternelle? Ou est-ce que vous voulez voir les gens qui sont là dans l'attente du jugement, sachant, vous vous rendez compte, dans ce moment-là, on est là, on est dans une église, on est dans la grâce de Dieu, on est entre frères et sœurs, on va rentrer chez nous, on va boire la tisane. En enfer, il n'y a pas d'eau. Vous le savez? C'est qui l'a dit? C'est Jésus. Il n'y a pas d'eau en enfer. Vous avez vu à Haïti? En 5 jours qu'il n'y a pas d'eau? À l'enfer, il n'y a pas d'eau. C'est écrit, on y viendra, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mes frères et sœurs, notre génération vit un drame au niveau spirituel. Les gens sont en train de se perdre et l'Église est accaparée à autre chose. Nous en sommes arrivés à ce qui n'est plus la crainte de Dieu. Je vais parfois dans des églises, ça m'arrive. Moi, des fois, j'ai envie de pleurer. C'est vrai que je pleure facilement, bon, ça, c'est pas grave. Mais je vois bien, sans être trop sévère, que la crainte de Dieu disparaît. Et ça, je voudrais pas que Dieu me dise ça de l'église où j'aurais été le pasteur. Ça m'affligerait beaucoup. Nous sommes arrivés à ce stade où il n'y a plus la crainte de Dieu. Beaucoup de ceux qui croient en Dieu, je le vois, considèrent Dieu comme un gentil papa. La preuve, on l'appelle papa. Ça, si vous saviez comment ça a fait baisser le niveau spirituel dans les églises, sans que l'on s'en rende compte, parce qu'un papa, ça ferme les yeux sur beaucoup de choses. Le bon papa du ciel, il ferme les yeux sur nos manquements, mais même sur nos péchés. Et puis bon, il connaît tout, il le sait, il est tellement gentil. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Et dans plein d'églises, je prends cet exemple parce qu'il m'est venu à l'esprit quand j'ai préparé la prédication, j'aurais pu en prendre un autre pour changer peut-être. Mais à cause de ces choses, on n'arrive plus à comprendre le caractère de Dieu. Les gens ne connaissent pas Dieu. Je suis trop, hélas trop bien placé pour le savoir. Les gens ne comprennent plus la double nature de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est amour, mais que Dieu est justice aussi, et qu'il est juge. Ils ignorent ce verset. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais il y a l'autre côté de la vérité. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et tout à l'heure, je lisais dans les Actes, quand Paul dit, il parle aux chrétiens, il dit, mais je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et si vous priez pour moi, priez dans ce sens où j'apporte tout le conseil de Dieu. C'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin d'un pasteur qui apporte tout le conseil de Dieu. On n'a pas besoin de belles prédications. On a besoin d'entendre tout le conseil de Dieu. Au moment où Dieu veut, la pensée de Dieu pour l'heure actuelle, nous on a besoin, ici, on a besoin de la pensée de Dieu pour janvier 2010 à Sainte-Agne. Voilà ce dont on a besoin. Parce que parfois on dit des choses, mais même moi le premier, je me suis rendu compte en préparant cette étude, et cette exhortation, que nous disons des demi-vérités. Quand on dit, je me suis rendu compte que ça plaît ça, mais quand on dit, c'est une vérité. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. On le dit souvent. Est-ce que c'est vrai? Mais pour beaucoup, ça laisse supposer que le pécheur n'a pas besoin de changer. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu, il a en horreur le péché, bon, c'est bien, mais il aime le pécheur. Ah, mais c'est bien. Mais voyez, si on s'arrête là, ça veut dire est-ce que ça nécessite besoin de changer? Puisqu'il nous aime, s'il nous aime en tant que pécheurs, eh bien, c'est que ça doit bien se terminer. Mais c'est pas ça. Il faut dire que Dieu, le psaume 7, et justement je lisais dans le psaume, parce que dans le psaume il y en a des versets qui parlent de, justement de la colère de Dieu. Plus que ce qu'on pense, on lit souvent les psaumes pour se réconforter, mais regardez par exemple dans le psaume 7. Dans le psaume 7, voyez, il faudrait dire ce que je viens de vous dire, qui est une demi-vérité, ou une vérité qui n'est pas complète plutôt, que Dieu est le péché, il aime le pécheur, mais psaume 7, verset 12, Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps, si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise, il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Ce texte nous montre que oui, Dieu, il aime le pécheur, mais que le pécheur, il faut qu'il se convertisse. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur, mais il a aussi traité les pasteurs de l'époque d'hypocrites. Pourquoi? Parce qu'il n'enseignait pas la repentance. D'ailleurs, dans Matthieu 23, regardez comment ce qu'il dit au pasteur. Mais moi, si le Seigneur me parlait comme ça, je ne sais pas ce que je deviendrais. Matthieu 23, 33. Enfin, franchement, quoique peut-être ce serait plus grave. Matthieu 23, 33. Il parle à des pasteurs, à des hommes chargés d'enseigner les âmes sur l'éternité. Matthieu 23, que je ne suis pas trompé, 33. Serpent, voyez, Jésus est amour, oui ou non? Est-ce qu'il est doux et humble de cœur? Mais voyez, il y a l'autre côté de la médaille. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Ça ne fait pas frémir ça? Mais tous les pasteurs devraient entendre ça. Tous les pasteurs devraient entendre que si on est des hypocrites, si on ne prêche pas l'enfer, si on ne prêche pas sur l'importance de se repentir, mais vous rendez compte, qu'est-ce qu'il dit? Il parle à des pasteurs. Mais comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne si vous ne faites pas ma volonté, si vous ne prêchez pas toute ma parole? On ne peut pas prêcher qu'une partie de la vérité pour garder des auditoires complets, pour faire plaisir, parce que s'il y en a quelques-uns qui s'en vont, eh bien ça va peut-être déstabiliser le fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a des textes dans la Bible qui sont sérieux. Vous croyez que Jésus l'a dit avec arrogance et dureté? Il a dû dire ça avec beaucoup de larmes dans les yeux. Parce qu'est-ce que Jésus aimait ses pharisiens? Est-ce que Jésus aimait ses sacrificateurs? Est-ce qu'à la Pentecôte, après la Pentecôte, il n'est pas dit un grand nombre de sacrificateurs obéissèrent à la foi? À la foi, après la Pentecôte, beaucoup de ces hommes se sont convertis. Que le Seigneur soit béni. Mais ils devaient entendre la vérité. Le Seigneur Jésus nous aime. Les bras sont ouverts. On peut chanter et chanter jusqu'à l'enlèvement de l'Église, de la croix, la grâce coule. Vous êtes d'accord? Mais un jour, 2 Thessaloniciens 1:8, ne le cherchez pas, le Seigneur Jésus apparaîtra dans une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse. On l'a lu en introduction, celui qui a le Fils, il a la vie. Ce soir, vous qui êtes assis ici, vous qui écouterez cet enregistrement ou sur Internet, est-ce que vous pouvez dire « Oui, j'ai la vie éternelle, je me suis repenti, j'ai demandé pardon, j'obéis à Dieu. » Il est bien dit « Celui qui obéit, ceux qui n'obéissent pas. » Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici même et qui croient obéir, ils n'obéissent pas. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'Église qu'on obéit à Dieu. Le Seigneur, il va revenir et il ne prendra pas ceux qui n'obéissent pas. C'est écrit, on n'a pas lu, mais vous pourrez le vérifier dans 2 Thessaloniciens. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, la colère de Dieu demeure sur lui. Alors je termine avec ce texte dans le psaume 2, où il nous est dit ceci, embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer, heureux tous ceux qui se confient en lui. Embrasser le Fils. Qui ce soir veut se jeter dans les bras du Seigneur? Qui ce soir veut dire, oui, je sais que ta colère va s'enflammer. On le sait, le péché, tout ce que l'homme fait nécessite la justice divine. Quand un homme quand on sait qu'un homme a violé un enfant, quand on sait qu'un homme a tué une petite fille après l'avoir violée, est-ce que tout le monde ne crie pas justice? Tout le monde demande la justice. Et croyez-moi, la justice divine, elle va se manifester. Embrassez le Fils. Jetez-vous dans ses bras. Comme le Fils prodigue qui est revenu et qui s'est jeté dans les bras de son Père. Qui ce soir veut se jeter dans les bras du Seigneur? Qui veut vraiment se repentir? Qui veut vraiment obéir à Dieu? Croire, c'est pas je crois en Dieu. Alléluia. Croire en Dieu, c'est obéir à Dieu. Celui qui croit en Dieu, il a la vie éternelle. Qui c'est qui veut se jeter dans ses bras? Heureux. Heureux tous ceux qui se confient en lui. On va fermer les yeux quelques instants. Je voudrais donner cette opportunité, d'ailleurs à chaque réunion, jusqu'à la fin de ma vie, je voudrais donner l'opportunité qu'un pécheur dans un auditoire puisse se tourner vers lui. S'il le fait ou s'il le fait passer son affaire. Mais moi, je ne veux pas que Dieu me reproche de ne pas avoir donné l'occasion à chaque réunion de permettre à un pécheur de faire la paix avec lui. Qui ce soir veut venir sur le devant? Qui ce soir veut dire, moi je veux donner ma vie à Jésus-Christ? Nous sommes recueillis. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui dit, oui, moi je veux faire partie de ceux qui auront Jésus pour Père, pour Sauveur, pour Seigneur. Moi je veux connaître la nouvelle Jérusalem. Moi je veux connaître la gloire, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Je ne veux pas connaître les temps de feu en compagnie du diable. Qui ce soir veut venir sur le devant? C'est entre vous et Dieu. Prenez l'habitude de vous positionner pour le Seigneur. Prenez l'habitude. Si quelqu'un veut venir, avancez-vous, on priera pour vous. Nous sommes tous recueillis dans le souci de permettre à quelqu'un de se convertir. N'attendez pas. Monsieur de Dieu, s'il vous plaît. Voilà, une dame s'est approchée. Si quelqu'un veut s'approcher, n'attendez pas. N'attendez pas. Nous aurons le 28 février un service de baptême. Tous ceux qui veulent le suivre pourront s'engager. Tous ceux qui n'obéissent pas, tous ceux qui ne se repentent pas, approchez-vous de Dieu, approchez-vous. Approchez-vous et priez pour ces âmes qui viennent, afin que leur décision soit définitive. Si vous êtes sans foi, si vous êtes dans le compromis, dans le péché, il y a peut-être une fille ici qui vit dans le péché, qui vit avec son compagnon sans être mariée. Il y a peut-être quelqu'un qui vit dans le mensonge, peut-être quelqu'un qui vit vraiment dans le péché, dans l'homosexualité, j'en sais rien. Repentez-vous, Dieu vous pardonnera. Tant que vous êtes sur la terre, Dieu peut vous pardonner et vous bénir. N'hésitez pas à vous approcher. Sauve des âmes dans cette ville de Toulouse, Seigneur, sauve des âmes. Oh Seigneur Jésus, sauve des âmes, sauve des âmes.